Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai un message magnifique à vous donner de la part du Seigneur parce que voilà, nous arrivons à la fin et nous devons de plus en plus avoir conscience que nous devons nous mettre à part pour Dieu, pour notre propre vie, mais aussi pour le service que nous avons à rendre dans le corps de Christ. Je voudrais que nous fassions une lecture dans Marc chapitre 3, verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que vous puissiez prendre quelque chose de bon pour votre vie. Amen. On parle souvent de la volonté de Dieu et on sait très très bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, alors il l'exauce. On trouve ça dans Jean chapitre 9, verset 31. Vous voyez, là Jésus dit, celui qui, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, c'est bien. Mais dans Jean 9, 31, il dit « Quiconque fait sa volonté et l'honore, alors Dieu l'exauce. » Vous voyez, il ne suffit pas de faire sa volonté comme par exemple témoigner de Jésus-Christ aux non-croyants. On est tous d'accord que nous devons le faire, nous avons été remplis du Saint-Esprit pour le faire, mais encore faut-il honorer Dieu en le faisant, hein, ne pas le déshonorer en le faisant. Il ne suffit pas de donner sa dîme à la maison de Dieu, encore faut-il honorer Dieu en le faisant. Le faire d'une façon sainte, sacrée, en ayant conscience du sacré, n'est-ce pas, de la chose. Beaucoup de choses sont faites parce que la Bible dit de le faire. C'est malheureux. On n'est pas sous cette loi-là. Parce que Dieu, il sonde nos cœurs, mes frères et sœurs. Et sa volonté est-elle faite avec un cœur en ordre face à Dieu? Un cœur qui n'est pas en ordre ne peut pas honorer Dieu. On peut, vous voyez, Jésus a vu, il regardait et il voyait, il discernait les cœurs, et il continue à discerner les cœurs, savoir si quelqu'un fait sa volonté juste, par exemple, pour se rassurer soi-même, ou pour... Vous savez, des gens qui donnent beaucoup, mais c'est juste parce que ils ont un petit peu le syndrome, vous savez, de l'homme infidèle. L'homme infidèle qui rentre à la maison après avoir été infidèle, hein, et il offre des belles fleurs à sa femme pour voilà, parce qu'il se sent un peu coupable, alors il offre des fleurs à sa femme. Mais beaucoup de gens donnent beaucoup pour Dieu, mais pour se sentir bien, pas pour honorer Dieu. Vous comprenez la nuance? Vous voyez la nuance? Dieu sonde les cœurs, il voit ce que vous avez dans le cœur. Un cœur qui n'est pas en ordre ne peut pas honorer Dieu, quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse, vous savez, je me suis posé certaines questions dans mon ministère. Des gens se sont un peu moqués de moi et de ceux qui pratiquent les mêmes choses dans mon ministère et dans le ministère d'autres serviteurs de Dieu. Je vois Dieu agir puissamment, souvent dans les réunions, en rallongeant des jambes. J'ai vu une jeune fille qui avait une jambe 10 cm plus courte et en 20 minutes elle a poussé devant des centaines de personnes qui étaient présentes. Tout le monde a vu ça, ça a été filmé. Mais dans chaque réunion presque, il y a des gens qui ont des jambes de 2 cm, 1 cm et demi, et ça se rallonge. Et puis certains chrétiens ont critiqué, ont rigolé là-dessus en disant qu'il y a un truc, et que ceci, et que cela. Ça m'a fait réfléchir et voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Jésus a parlé des boiteux qui guériraient, il a dit, n'est-ce pas? Il y a 12 versets dans le Nouveau Testament qui parlent des boiteux guéris, c'est-à-dire des gens qui ont une jambe plus courte, hein, et qui se rallongent. Pourquoi le Nouveau Testament il parle tant de ce miracle-là, de jambes qui se rallongent? 12 versets. Pourquoi y a-t-il tant de jambes qui se rallongent dans mon ministère? Bien, dans le livre du Lévitique, chapitre 21, verset 18, Dieu dit qu'une personne qui a une jambe allongé, c'est-à-dire qui est plus long, un membre qui est allongé, qui est plus long que l'autre, ou qui est boiteux, ne pourra pas s'approcher pour offrir l'aliment de Dieu. Alors qu'est-ce que je vois par là? Bien, je vois par là que Dieu montre sa bonté en guérissant ses malades, en particulier, c'est un peu comme un acte parabole, le fait de guérir les boiteux. De nos jours, les boiteux sont guéris, mes frères et sœurs. Avant, impossible, ils ne pouvaient pas s'approcher dans la présence de Dieu pour offrir l'aliment de Dieu. Ce Dieu qui rejetait les boiteux dans l'ancienne alliance, quant au service divin, eh bien aujourd'hui ce même Dieu les guérit. Cela montre que la porte qui était fermée maintenant par Dieu est ouverte maintenant par Dieu. Question, est-ce que tu es boiteux dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu es boiteux dans ta vie morale? Par les miracles de boiteux physiques guéris, Dieu montre qu'il veut et qu'il peut guérir les boiteux moraux et spirituels. S'ils sont boiteux moralement et spirituellement, ils ne peuvent pas s'approcher, alors il les guérit. Vous comprenez? Il faut une guérison si tu es boiteux moral ou boiteux spirituel. Il te faut une guérison, sinon tu ne peux pas t'approcher pour servir. Tu es impossible, tu ne peux pas. Aux yeux de Dieu, tu ne peux pas. Parce que tu es boiteux. Comme on dit, tu as un pied sur le trottoir, un pied sur la route. Tu boites. Il faut que tu choisisses. Soit tu marches sur la route, soit tu marches sur le trottoir. Tu dois choisir. Tu ne peux pas d'un côté faire certaines volontés de Dieu, hein, et puis d'un autre côté, déshonorer Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu, dans ton église, dans son église, hein, dans sa présence, en ayant dans ta poche un visa pour Babylone. Vous savez ce que ça veut dire, un visa pour Babylone? C'est-à-dire que de temps en temps, eh ben, tu fais comme les pêcheurs. Faire la volonté de Dieu et l'honorer. Voilà deux conditions pour être exaucable. Parfois, dans son amour, c'est vrai que Dieu exauce un boiteux moral ou un boiteux spirituel. Mais c'est des exceptions, mes frères et sœurs, ce n'est pas la règle. Il ne faut pas dire « Ah, ben j'étais dans le péché, j'étais pas bien, j'ai prié, puis Dieu m'a quand même exaucé. » C'est une exception. Si Dieu t'a exaucé alors que tu marchais un pied sur le trottoir et un pied sur la route, si tu étais dans ta vie boiteux, eh bien, sois plein de gratitude envers la bonté de Dieu, envers la patience de Dieu à ton égard, et change de comportement, c'est-à-dire repens-toi, ne te dis pas « Oh ben Dieu m'aime bien comme ça, il me bénit comme ça, donc ça va. » Non, ça ne va pas. C'est juste que Dieu exerce sa patience pour ton salut. Beaucoup de boiteux moraux et beaucoup de boiteux spirituels se présenteront devant Dieu au grand trône blanc, au jour du jugement, et diront « Mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. » Dieu leur dira « Sortez de ma présence, car vous avez commis l'iniquité, c'est-à-dire ce qui est injuste. » Oui, vous avez d'un côté, vous avez fait des miracles, mais de l'autre côté, vous avez fait ce qui est injuste. Vous n'avez pas honoré. Vous ne m'avez pas honoré. Considère tes voies, mon frère, ma sœur, considère tes voies. Ne t'imagine pas que Dieu est avec toi, qu'il est d'accord avec toi, parce qu'il t'a exaucé. Ce que Dieu veut, c'est que tes pas soient affermis, que tu marches droit, que tu ne boites plus. Ce qu'il veut, c'est que ta vie l'honore. Pas seulement tes paroles, ta vie. Pas seulement tes prières, ta vie. Pas seulement ton témoignage, ta vie. Pas seulement ce que tu donnes, ta vie. Il veut que toute ta vie l'honore, lui. Ce qu'il honore, c'est ta sainteté, ta mise à part pour lui. Jésus, il est notre modèle en cela. Vous savez, les religieux étaient choqués parce qu'ils voyaient que Jésus allait manger chez des gens pêcheurs, des, des voleurs, des prostituées, des bandits, tout ça. Mais, bien qu'il était en leur compagnie, il gardait sa sainteté. Il ne se faisait pas prostituer avec les prostituées, ni voleur avec les voleurs. Non, non, non. Il allait vers eux pour les emmener à sa sainteté. Vous savez, j'ai travaillé, quand j'étais plus jeune, autour des 20 ans, j'ai travaillé 7 ans dans l'œuvre de David Wilkerson à Paris qui s'appelait Teen Challenge. Il y avait une règle, il y avait beaucoup de règles, mais il y en avait une qui nous protégeait en cela. Cette règle, elle se trouve dans Luc, chapitre 10, versets 1 et 2. À 3, je vais vous la lire. Le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Une brebis n'est pas envoyée toute seule au milieu des loups. C'est pas Jésus qui envoie. Là, c'est elle qui veut y aller toute seule. Parce que si elle y va toute seule, elle va se faire dévorer par les loups. Pourquoi ? Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de la protéger ? Oui, bien sûr, il a le pouvoir de la protéger. Cependant, si la brebis n'obéit pas à la règle Luc 10.1, ben Dieu n'est pas tenu de la protéger. Ce qui fait que la brebis, ben, elle part peut-être avec un bon cœur, mais elle est stupide. Et puis, elle va être contaminée. Elle va être bouffée. Si Dieu protège une brebis toute seule qui s'adresse au loup, c'est encore là une exception. C'est pas la règle. Il se peut qu'un jour, vous soyez tout seul dans un train, et puis c'est pas parce que vous êtes tout seul que vous n'allez pas rendre vos témoignages. Mais vous êtes tout seul, puis c'est une circonstance. C'est une exception. C'est pas la règle. Comprenez-vous ? Il faut obéir aux règles de Jésus. Sinon, arrêtez de dire Seigneur, 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 Seigneur. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu, forcément. C'est seulement ceux qui obéissent. Il faut obéir aux règles. Si on n'obéit pas, on n'honore pas l'auteur de ces règles. On ne peut pas être certain que l'auteur de la règle approuvera et confirmera nos actes, n'est-ce pas ? De foi même. De bonne volonté même. À Teen Challenge, nous allions deux par deux dans les rues, dans les bars. Il est arrivé que je me suis trouvé dans des situations angoissantes, pour ne pas dire autre chose. Hein. En particulier chez les punks, je me souviens, c'était un peu terrifiant même. Mais je n'étais pas seul. On était toujours deux. Deux. Au café-bar, on avait trois café-bar Teen Challenge. Où nous recevions des gens que nous avions rencontrés, et alors, eh bien, il y avait toujours l'équipe. On n'ouvrait pas le café-bar avec juste un équipier, il y avait toujours l'équipe. Et on rigole souvent, on voit les mormons avec leur costume cravate, tout ça. Vous avez vu, ils sont toujours deux par deux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sages, ils sont organisés selon les Écritures, ils ne se laissent, ils s'inspirent par ce que Jésus a dit de faire dans Luc 10.1, 2 par 2. Alors on peut se moquer d'eux, vous avez le droit. Mais c'est eux qui ont raison. Juste pour donner un exemple qui est un peu choquant, je ne pense pas que les prêtres pédophiles vont violer les enfants 2 par 2. Je pense que les prêtres pédophiles s'arrangent pour être tout seuls avec les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, faire la volonté de Dieu et honorer Dieu, c'est deux choses qui vont ensemble. Si vous faites la volonté de Dieu, posez-vous la question. Si vous faites une chose et vous savez que c'est la volonté de Dieu, posez-vous la question. Est-ce que ce que je fais honore Dieu ? Ma façon de le faire, est-ce que ça honore Dieu ? Est-ce que je suis bien en ordre avec les règles ? Ou est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu pour me satisfaire personnellement ? Parce que ça me fait tellement de bien. Je ne vais jamais prêcher tout seul en Afrique. Jamais. Jamais. Vous savez, on peut vivre une vie chrétienne très honorable, sans être érudit, sans savoir toutes ces choses que je viens de vous dire. Beaucoup de véritables chrétiens ne vont pas en profondeur dans les Écritures, et en particulier dans ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Ils honorent Dieu, ils font sa volonté, sans connaître les textes qui parlent de ça. Mais ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit. Ils font ce que Dieu dit de faire spontanément avec leur cœur parce que leur cœur est consacré à Dieu. Ils vont faire les choses en règle, selon les règles de Dieu, parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il produit cette sainteté dans leur comportement, sans qu'il y ait besoin d'une étude sur la sainteté. Pour vous qui connaissez les Écritures, qu'il en est de quoi à votre sujet ? Eh bien, cette connaissance que vous avez doit juste confirmer en vous-même que votre cœur est bon, que votre cœur est à Dieu, que vous aimez la soumission, que vous ne servez pas à Dieu pour un intérêt personnel. C'est pourquoi je dis, ce qui compte, mes frères et sœurs, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Mettez du temps à part pour rechercher la face de l'Éternel, rechercher la face de Dieu, et en toute humilité, confessez vos fautes, recevez le pardon de Dieu, et soyez remplis du Saint-Esprit tout à nouveau. Alors votre service sera agréé par Dieu, vous aurez la paix dans votre cœur et vous serez en unité avec le vrai corps de Christ, en laissant derrière vous tous les esprits religieux qui manipulent les chrétiens charnels, les chrétiens rétrogrades et les soi-disant chrétiens. Vous, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Merci Jésus de nous donner encore aujourd'hui ces paroles qui nous aident à comprendre comment nous devons faire ta volonté, mais pas seulement faire ta volonté, mais de la faire et t'honorer en étant véritablement au courant des règles le plus possible et les mettant en pratique tout en étant rempli du Saint-Esprit. Je te bénis Seigneur Jésus pour ces paroles que tu m'as données et je te demande mon Dieu que tu les inscrives dans le cœur de chacun et chacune dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Au revoir.